Radio Pleine Lune, 93,8 MHz. On écoutait les Lilliputs, les sorcières sont arrivées. Eh bien, on peut dire qu'il y a 2 semaines, pendant le week-end de Pâques, on pouvait vraiment dire que les sorcières avaient débarqué à Genève. C'était le 8e congrès du réseau international des lesbiennes, ILIS, et c'était 800 sorcières qui ont envahi l'université de Genève et les rues adjacentes. Alors, nous avons ici une des organisatrices, une des personnes de Vanille Fraise, le groupe qui a organisé ce 8e congrès à Genève et avec qui on va faire un peu un bilan. Alors, tu vas nous raconter tout d'abord un peu les moments forts de ce congrès et de cette manifestation.
Bon, alors le premier moment fort, c'est de se rendre compte qu'il y avait à peu près le double de femmes que ce qu'on attendait. C'est-à-dire, on pensait organiser, nous, naïvement, une rencontre pour 300-400 lesbiennes. Elles sont venues 700 à 800 femmes. Alors bon, le premier moment fort, c'est de se rendre compte qu'on est tant. En particulier, le débarquement du quart des Espagnols, c'était quelque chose d'assez phénoménal. On n'avait bien sûr pas reçu la moitié des inscriptions de ces femmes à débarquer de Bilbao, 2 bus, 130 femmes en un coup. C'est quand même une sacrée descente, on peut dire.
2 quarts de sorcières.
Quasiment, oui. Alors, ça a entraîné un certain débordement, mais enfin, je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé, malgré ce nombre tellement important. Et là, on voit vraiment que c'est le succès d'offrir une rencontre qui est gratuite, d'accès libre, avec un logement gratuit. C'est vraiment la meilleure base pour faire une vraie rencontre large.
Puis il y a eu aussi un moment pas mal, c'était une manifestation dans les rues, samedi après-midi, dans les rues de Genève.
Alors là, bien sûr, toutes n'ont pas osé aller. Alors, il y en a environ 400-500. En particulier, les femmes de couleur ne se sentaient pas très, très sûres d'aller. Faut dire que tout le monde n'a pas été bien accueilli en Suisse pour cette conférence, hein, puisqu'en fait, il y a une femme qui a été refoulée à la frontière venant d'Italie parce qu'en fait, elle était fichée dans les milieux anars. Ils lui ont dit non, vous n'irez pas. Il y en a une autre, par contre, qui s'est fait accompagner par les douaniers jusqu'à Unideux. C'est une des femmes aveugles qui est arrivée à la douane. Vous allez où? Je vais à cette conférence à Unideux. Ah ben, attendez, je vous y amène. Alors, il y avait quand même 400-500 femmes qui ont osé apparaître d'une manière ouverte un samedi après-midi dans les rues de Genève. On a eu de la chance, on n'a pas eu trop de gouttes de pluie. Et ma foi, je crois que Genève n'a jamais vu une telle manifestation en son sein.
Raconte-nous un peu.
Bon, heureusement qu'on avait un tract en français parce que la plupart des slogans étaient en espagnol. Il faut dire que devant, il y avait les Espagnols et tout y est passé. Reagan, Gorbatchev, contre l'OTAN, tout leur programme politique de l'année, les luttes du Pays Basque et tout ça mélangé avec des chansons de lesbiennes. C'était quand même assez phénoménal. Et derrière, il y avait les Latinos qui en mettaient à peu près autant. C'est là qu'on se rend compte que nous, bon, s'il y a des femmes encore plus latines que nous, c'est elles qui vont tenir le microphone tout le long, ça c'est sûr. Alors, il y avait pas mal de passants, des effrayés qui entraînaient leur enfant en disant « Mon Dieu, ne regarde pas ça, quelle horreur !» Et puis des plus curieux, qui ne regardaient pas toujours avec antipathie nos slogans. Bon, c'est vrai qu'on avait décidé d'aborder un problème qui est très crucial en ce moment en Suisse, le problème de l'immigration, en osant dire asile aux lesbiennes de tous les pays. C'est bien sûr rentrer dans un sujet extrêmement brûlant, puis c'est aussi une manière de dire si les lesbiennes n'ont pas le droit d'exister dans le pays où elles vivent, si elles sont réprimées au point d'être parquées dans des camps ou que ça leur est impossible, elles devraient pouvoir être accueillies sur ce motif, comme raison politique, ce qui est le cas de la Suède, donc, hein, qui accepte ces conditions. Mais bien sûr, ici, dans la situation dans laquelle on est, avec la tentative de fermer nos portes à tout juif, poilu et autres indésirables, ça peut bien sûr tomber assez à pic comme sujet. Et le clou de la manifestation se terminait donc devant une statue de nos monuments genevois, où on voit la Confédération dans les bras de Genève.
De Genève dans les bras de la Confédération.
Et elles sont très plantureuses, les deux, elles sont très femmes sur cette statue. Bon, on s'est permis de vouloir changer quelque peu les commentaires qui accompagnaient donc ces deux statues avec nos commentaires pour assurer une longue vie, par exemple, au lesbianisme international ou pour demander le droit d'asile. Et là, bien sûr, la police qui nous avait gentiment accompagnés jusque-là n'a plus supporté.
Moi, j'ai plutôt eu l'impression que c'était un flic qui n'a pas supporté. Ce n'était pas tellement un ordre de la police.
Non, c'était le chef.
L'initiative de quelqu'un qui a dit « Non, c'est trop, mes ancêtres se sont battus pour ça, vous déshonorez cette statue » et qui s'est fait proprement jeter par terre.
C'était le supérieur hiérarchique et puis il l'a fait juste avec 4-5 autres. Mais il y avait derrière les camions, les bus qui étaient pleins, il ne les a pas appelés, mais c'était lui le supérieur. Il a dit « Ah non, si vous touchez à nos ancêtres, alors là c'est trop !» Puis effectivement, ça s'est assez vite contrôlée et les femmes avaient fait tout le tour de la statue, elles contrôlaient le tour de la statue.
C'était assez
et lui,
drôle,
il était à côté, moitié souriant, moitié goguenard. Bon, il savait qu'on allait dissoudre à ce moment-là, qu'on était d'accord de dissoudre, donc il a aussi été d'accord d'écraser là, quoi.
Et puis le soir, c'était une grande fête.
D'abord, il fallait encore rentrer à l'université, ce qui n'était pas banal, parce que comme on était venu à 500 en prenant beaucoup de place, sur le retour, il y avait encore les flics qui nous escortaient en disant « Mon Dieu !» parce qu'il y avait des groupes qui avaient l'air très joyeux, comme ça, qui se prennent « Mon Dieu, pourvu que ça dérape pas, puis qu'elles ne s'en prennent pas à un magasin ou un autre. » Alors, il y avait quelques-uns qui suivent en disant « Bon, pourvu que tout le monde rentre comme il faut à l'Uni, avec les deux bus qui nous accompagnaient tout le long. » Finalement, ils ont vu qu'on est toutes rentrées à l'Uni 2. Grand soulagement. Les voilà de nouveau derrière leurs vitres.
Et puis donc, à l'université, ça a continué avec des débats, avec des films, et le soir, une fête.
Voilà, le soir, il y avait une grande fête. Donc, tous les jours, il y avait 4 à 5 heures de cinéma ou d'audiovisuel ou de performance également, qui était assez intense, qui était une autre manière de faire connaissance que les ateliers de discussion purement. Et effectivement, le soir, il y avait une grande fête. Je ne sais pas combien de femmes ont pu entrer ce soir-là. Il pouvait y en avoir 700, 800, je ne me rends pas vraiment compte. Malheureusement, on n'avait pas ce qu'on aurait voulu avoir, c'est-à-dire un véritable concert, parce qu'on n'a pas trouvé de salle qui accepterait ces conditions. Mais heureusement, on a quand même pu faire à l'université une bonne fête, bien que c'était avec la musique disco. C'était une des plus internationales fêtes de femmes que j'ai jamais vues de ma vie.
Radio Pleine Lune 93,8 MHz, c'était Virginie dit homosexuelle et une Frauen, une chanson qui date, je crois, de 1977. L'histoire avance quand même. 8e congrès d'ILIS, vous avez donc fait le pari de l'ouverture. C'était un congrès très ouvert, c'était un congrès gratuit. Vous avez fait venir beaucoup de femmes d'ailleurs, vous avez invité des femmes d'ailleurs avec une attention très spéciale pour des femmes. Vraiment d'ailleurs, c'est-à-dire d'autres continents, d'autres couleurs, avec aussi d'autres problèmes, par exemple les handicapés, je crois.
C'est cela. Finalement, les handicapés étaient les seules femmes blanches de toutes nos invitées, puisque les autres étaient ou latinos, ou originaires des pays asiatiques, ou noirs, vivant en Afrique, pour le cas d'une et d'une seule, et pour les autres vivant dans des pays plus riches, en Hollande, en Angleterre, aux États-Unis.
Combien de pays étaient représentés ?
En tout, je pense qu'il y avait plus d'une trentaine de pays. Parmi nos invités, moins bien sûr, mais enfin il y avait quand même 7 pays différents d'Amérique latine, 5 pays différents d'Asie, disons. C'était quand même une occasion de rencontre qui n'a pas pu avoir lieu jusqu'à présent.
Donc ce pari d'ouverture qui était un pari qui a permis justement de mélanger des femmes de partout, ça a été quelque chose de très riche, mais ça a amené pas mal de problèmes aussi, je crois.
Ah oui, bien sûr, parce que parmi nous se retrouvaient les inégalités qui persistent dans la société. En particulier, plusieurs des femmes noires étaient extrêmement revendicatives, avaient une colère qu'elles portent avec elles tout le temps, de faire face toujours aux mêmes présupposés racistes et discriminations à leur égard. Bien entendu, ça allait ressortir parmi nous aussi. Je crois que ça, on le savait à l'avance. Et effectivement, ça a été assez intense, dans le sens que et les femmes handicapées et les femmes noires et d'autres encore ne pouvaient pas sortir de la dynamique dans laquelle elles étaient par rapport à ce rapport de pression et le revivaient à travers nous avec la terre entière et avec tout le monde, je veux dire.
Tu veux dire par là que tu as l'impression que pour elles le racisme est quelque chose de fondamental et que pour elles c'est le seul problème? Tu veux dire ça ou tu veux dire qu'il y avait effectivement des attitudes et du racisme dans cette conférence?
C'est-à-dire que je pense que cette conférence ne pouvait pas corriger toutes les inégalités qu'il y a et que c'est vrai que c'est très peu de pouvoir inviter qu'une vingtaine de femmes. Hein, quand on pense qu'on est en Suisse, elles ne peuvent pas forcément connaître notre groupe tel qu'il est, l'histoire qu'il a. Pour elles, on est un groupe constitué entièrement de femmes blanches, on vit dans un pays riche, on a réussi à rassembler de l'argent, donc on en a. Et puis c'est tout. Nous, on peut se voir d'un autre angle de la lorgnette et voir que parmi nous, il y a en fait bien les représentations de la grande immigration ici à Genève, soit des Italiennes, des Espagnoles, que la composition, disons, pour ici est plus variée que cela. Et effectivement, la situation des personnes noires à Genève et à Londres est bien, bien différente. Chez nous, les personnes noires sont souvent des personnes d'ambassade, qui travaillent dans les organisations internationales, tout ça. Ce n'est pas la classe la plus basse, disons, comme ça peut être à Londres. Effectivement, en voyant ces femmes et en voyant leur colère, j'en ai appris beaucoup sur ce qu'elles doivent vivre là-bas. Et je me disais, mon Dieu, elles doivent vivre vraiment dans des rapports d'une hostilité et d'une violence quotidienne qui doit être assez terrible. Et malgré tout, elles sont fortes, elles sont unies, elles sont revendicatives, elles sont assez formidables au fond.
Donc le fait qu'elles aient amené de façon parfois assez violente et assez destructrice, je veux dire dans le sens qu'il y avait beaucoup de gens qui pleuraient, qu'il y avait des conflits assez forts, le fait qu'elles aient amené ce problème du racisme, pour toi c'est quelque chose de positif?
Ben oui, parce qu'il fallait qu'elles l'amènent. C'est vrai que le mouvement lesbien jusqu'à présent était essentiellement un mouvement blanc, essentiellement dans les pays riches, et il fallait que cette question soit soulevée, il fallait qu'elle éclate, il fallait que ça se passe ainsi. Dans ce sens-là, j'étais pas surprise.
Et ça va faire évoluer ILIS.
Bon, j'espère, tout dépendra de quel secrétariat reprendra l'année prochaine, parce que nous, on a fait nos 2 années et on y a mis l'énergie et on a vraiment besoin d'une relève maintenant. Tout dépendra de ce groupe-là et c'est pour ça que pour nous, c'est extrêmement important que ce soit un groupe, si possible, dans le sud, hein, qui ne ramène pas de nouveau le secrétariat dans le nord, comme ça a été le cas des années précédentes, et qui, en tout cas, ne perde pas la langue espagnole.
et que ce soit pas constitué uniquement de femmes blanches. Alors, si on trouve un groupe remplissant ces conditions, je pense, oui, que ça continuera dans ce sens, j'en suis convaincue. Parce que les Latinos sont organisés entre elles, les Asiatiques sont organisés entre elles, et ça aura des répercussions, forcément.
Bon, alors, on a parlé du côté négatif, mais il y avait aussi ce côté positif, très fort, de toutes ces femmes venues de partout, et des rencontres qui pouvaient s'ébaucher, qui ont pu se constituer, pas toujours dans les ateliers, peut-être dans les couloirs ou ailleurs, mais des rencontres qui vont peut-être aboutir à des réseaux.
C'est ça. Alors, les deux réseaux qui ont été annoncés clairement comme une réussite de cette rencontre, c'est le réseau des lesbiennes latino et le réseau des lesbiennes asiatiques. Certaines d'entre elles, pour les asiatiques, vivent dans d'autres pays ou ont été amenées en Hollande pour étudier ou en Angleterre, et c'est là qu'elles ont fait leur coming out et c'est là qu'elles sont réalisées comme lesbiennes, et elles repensent leur pays à travers ses yeux, et d'autres vivent dans ces pays. Et ça, je crois que c'est une occasion assez extraordinaire pour elles, et comme pour nous, hein, parce que l'isolement, c'est toujours la même chose, au fond. Je veux dire, quand on est dans une région, on connaît personne autour de soi, et on n'a qu'un jugement négatif, une image négative de soi-même. Mon Dieu, que c'est dur. Alors, je crois que la constitution de ces réseaux, ça va pouvoir les renforcer énormément. Et arrêter aussi cette fixation que seul le matériel des mouvements de libération homosexuelle et de lesbienne vienne forcément en anglais des États-Unis ou de l'Europe. Et que c'est forcément que notre façon de mener cette lutte qui est la façon. Alors là, s'établit une communication qui nous amènera peut-être tout à fait ailleurs.
Mais toi, tu as eu l'impression qu'il y avait une identité de problème, une identité de vie entre une lesbienne indienne et toi à Genève, par exemple. Tu retrouvais un filon continu entre toutes ces lesbiennes du monde entier.
Oh oui, je crois qu'on le retrouve assez facilement, et on le retrouve en fait dans l'oppression des femmes, dans la reconnaissance de cette oppression et dans une certaine résistance ou une certaine critique. Ça, je crois qu'on le trouve, chez toutes. Bon, jusqu'où va cette critique, ça c'est délicat, parce que le désavantage en fait d'une conférence ouverte et gratuite, c'est qu'on a un nombre très important de touristes, entre guillemets. Ça veut dire, finalement, les femmes militantes ou qui font partie d'un groupe ou qui ont eu l'occasion de réfléchir, d'essayer d'avoir une opinion sur, pas seulement sur leur sexualité, sur le droit de la pratiquer, mais aussi sur le reste du monde, elles étaient peut-être aussi minoritaires, au fond. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même une certaine attitude de résistance au patriarcat dans laquelle elles se reconnaissent toutes.
Tu as eu l'impression qu'il y a eu vraiment une culture de lesbienne qui existe, une culture qui dépasse les races, qui dépasse les pays, qui dépasse les cultures autochtones, qui a vraiment une culture de lesbienne.
Je sais pas si on peut vraiment dire qu'il dépasse. Je crois qu'il y a une culture de lesbienne et qui est complètement empreinte aussi de ses origines propres. Je veux dire, si par exemple un atelier théâtre peut avoir lieu et à sa conclusion, des femmes peuvent décider de créer une troupe internationale de lesbiennes, même avec mélange de langues, parce qu'en fait elles se rendent compte qu'elles arrivent à trouver une autre manière de s'exprimer que par leur langue, je crois que oui, on peut dire il y a une culture lesbienne.
C'est ça qui s'est passé.
Ah oui, ça s'est passé.
Il va y avoir un théâtre international de lesbiennes ?
Très probablement, oui.
Raconte-moi un peu ça.
Ah, alors ça, je crois qu'il faut leur laisser le temps de progresser, Mais je pense qu'il va y avoir d'autres rendez-vous. Bon, à part la prochaine conférence de Lilis, il y aura d'autres rendez-vous. Par exemple, le rendez-vous de Mexico en août 87 sera un très grand rendez-vous, parce que je pense que c'est la première fois que les lesbiennes apparaîtront organisées dès le début à l'intérieur de cette conférence. Donc, je rappelle, c'est la conférence féministe d'Amérique latine et des Caraïbes. À chacune de ces conférences jusqu'à présent, le lesbianisme n'avait pas été compté parmi les ateliers. Puis à la dernière minute, il s'est quand même fait. Et puis chaque fois, il y a plus de femmes qui s'y sont précipitées. Je crois que dans le dernier, il y avait 600 qui voulaient rentrer dans cette salle. Et effectivement, bien sûr, c'était beaucoup trop petit. Ça avait été pensé comme un atelier adjacent. Et je pense que cette fois, elles vont arriver. Et on va arriver toutes organisées déjà à l'avance. Et qu'une occasion comme ça, par exemple, peut être un bon public pour faire la première présentation d'une troupe internationale de lesbiennes.
Thank you.
Radio Pleine Lune 93,8, on écoutait...
Dykes on Bikes.
Lesbiennes sur des vélos.
Sur des motos, sur des deux roues de Irène Schweitzer.
Bien, revenons. Nous sommes en train de parler de la 8e conférence du réseau international de lesbiennes ILIS qui s'est tenue à Pâques à Genève. Alors moi, il y a une des choses qui m'a un peu frappée. C'était la participation de toutes ces femmes, de toutes ces couleurs, de toutes ces spécificités, avec des femmes handicapées et tout, il y avait un peu une espèce d'accumulation d'oppression. C'était un peu à qui était le plus opprimé. Alors bien sûr, celle qui cumule à la fois d'être lesbienne, noire, handicapée, et je ne sais pas quoi, et gauchère, et myope, etc., elle a un peu la palme. Il y avait un peu ça. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, c'est un peu le problème de beaucoup de conférences féministes auxquelles j'ai été, c'est qu'on reste dans l'étape de se raconter parmi combien c'est difficile, combien c'est dur. Et ça prend cette forme tribunale, cette forme addition, effectivement, de pression, ça je vois bien ce que tu veux dire, mais je crois qu'il n'y a pas eu que ça quand même. Je crois que il y a eu tous ces ateliers différents, c'est ça qui est difficile. C'est difficile d'avoir une vue globale quand on sait qu'il se passait 6 choses à la fois pendant chaque demi-journée, et suivant le nombre qui s'y retrouvait, quelle composition s'y retrouvait. Je crois qu'il y a eu toute une autre qualité d'échange dans les ateliers et même dans les couloirs. Hein, ces ambiances de musique qu'il y avait, ces échanges qu'il y avait autour de chaque table, une qui avait amené le travail artisanal qu'elle faisait, l'autre un journal qu'elle écrivait, tout ce qui s'est passé dans ces moments-là, on ne s'en est pas rendu compte à travers les séances plénières. Hein. C'est vrai, dans la séance plénière de clôture, il y avait beaucoup de complaintes, effectivement, beaucoup de complaintes adressées aussi à nous, comme première autorité à laquelle on se confronte avant tout le reste, c'est les organisatrices. bien sûr, c'est vrai, ça a pris... à mon goût aussi, trop de place, dans le sens qu'on n'a pas eu le temps de se dire, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on peut développer comme stratégie commune? Mais bon, ça a été le problème des autres conférences auparavant aussi. Je crois que on vient d'expériences tellement différentes, de cultures tellement différentes. Il y a des problèmes de compréhension aussi qui sont liés à ça, qui après sont aussi perçus d'une manière offensante par l'une, par l'autre, que c'est difficile d'imaginer qu'à la fin de 4 jours, on va vraiment sortir avec une analyse commune, tu vois, des résolutions communes.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu intrinsèque, en fait, avec cette démarche qui, effectivement, était la démarche des mouvements des femmes, c'est-à-dire en partant de son vécu, avec l'idée... qu'on va se mettre ensemble, que ça va renforcer une espèce d'identité commune, une culture commune. De fait, ce qu'on voit, c'est que ça renforce les différences. C'est-à-dire qu'on parle et on se rend compte, mais moi, je ne suis pas tout à fait la même chose. Moi, je suis noire, moi, je suis juive, moi, je viens de classe ouvrière, moi, je suis ci, non, moi, je suis ça. Et que de fait, on va, pour essayer de retrouver chacune un espace où elle puisse s'exprimer totalement, on finit par retrouver un espace qui est incompatible avec l'espace des autres. Et c'est plus que la juxtaposition de problématiques différentes. Et on a de la peine... Moi, c'est ce que j'ai ressenti de cette conférence, c'est ce qu'on ressent aussi dans d'autres lieux et entre autres dans le mouvement des femmes. On a la peine maintenant de mettre quelque chose de commun, de définir justement une stratégie commune.
Moi, je n'ai pas une impression tellement forte de cela dans cette conférence-là, parce que je crois pas que je crois qu'on est encore à une étape où on a besoin d'avoir des informations de qu'est-ce que vivent les autres, de ce que ça signifie d'être une femme noire dans un pays blanc. Il y a encore des informations qui sont pas assez passées et que ça peut que nous permettre de voir les choses. De voir plus au clair dans les choses que d'avoir ces informations. Je ne crois pas forcément que ça nous mène dans une position où on se dit, bon, ben moi je suis juive, donc je suis encore différente de celle-là qui, elle, ne l'est pas, etc. etc. Je crois au contraire que on commence à arriver à faire les liens de cette façon-là. Et si vraiment une partie ou une bonne partie des femmes de cette conférence sont ressorties avec l'idée qu'il y a un lien entre le sexisme, le fascisme et le racisme, eh ben, c'est déjà un pas, si tu veux, pour moi, qui va dans le sens contraire de ce que tu dis. Je veux dire, c'est pas juste nous renforcer dans nos différences, c'est vraiment commencer...
Mais ce lien, il s'est concrétisé dans une élaboration d'un début, en tout cas, le début d'une élaboration d'une stratégie. Il y avait, je crois, un groupe qui s'appelait groupe d'action, proposition d'action, par exemple. Qu'est-ce que ce groupe a pu définir ?
Ah bah malheureusement, ça, j'ai du mal à te le raconter parce que j'étais pas dans le groupe action moi-même. Mais... il y a des choses qu'on peut faire ensemble sans être complètement uniformisé ou sans avoir de plateforme commune. Je crois que, par exemple, on peut se fixer des rendez-vous d'avoir un moment d'action commune sur une même revendication, par exemple, dans nos villes différentes, dans nos pays différents, avec nos différences et nos spécificités. Ça a déjà été fait, ce sera certainement fait encore. On peut prendre l'objectif, par exemple, de l'OMS, qui a toujours l'homosexualité dans la liste de ses maladies mentales, et puis essayer de faire pression dans différentes villes en même temps, sur eux, sur ce point, chacune avec nos moyens. Je crois qu'il... Je ne peux pas vraiment dire qu'on a pris une décision très concrète, très précise, qui explique ça. Mais je pense malgré tout que le passage de l'information et se rendre compte ce qui se passe, ce que vivent les autres, où on en est dans cette planète, je crois que c'est vraiment la base dont on a besoin pour pouvoir construire quelque chose. Si on n'a pas cette information, si on ne sait pas ça, si on n'est pas consciente de ça, on peut tomber dans des pièges qui se retournent contre nous tellement facilement.
Il y a aussi quelque chose que j'ai noté, pas au niveau du contenu, c'est au niveau des participantes, c'est un peu l'absence relative des genevoises, très peu de genevoises.
Oui, bon, ça, moi, je le comprends.
Très peu de lesbiennes genevoises et encore moins de féministes hétéro-genevoises.
Ah oui, alors ça, quasiment aucune. Quasiment aucune. Pour les lesbiennes genevoises, je pense qu'elles sont dans une situation assez particulière parce que c'est vrai que c'est difficile de participer à un événement public dans sa propre ville et que plus volontiers une genevoise va craindre de se trouver face à son enseignante ou face à son élève ou face à qui sais-je, de son entourage immédiat avec qui elle n'a pas, une attitude très ouverte sur son lesbianisme. Donc il y a aussi ça. Bon, il y a le fait de vouloir partir pour les vacances, s'éloigner de la ville, etc., etc. Et alors celle-là, vraiment, c'est des andouilles parce que s'il n'y aura pas dans 10 ans une rencontre d'une telle importance à Genève, la louper, c'est vraiment dommage. Mais je pense que pour pas mal de lesbiennes, il y a aussi cette histoire de la clandestinité qui était assez délicate. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de femmes qui demandaient qu'il n'y ait pas de photos. Parmi elles, il n'y avait pas seulement les femmes de couleur ou les femmes qui vivent dans un pays avec des problèmes d'immigration, que sais-je. Il y avait des Suissesses, il y avait pas mal de Suissesses qui disaient pas de photos, qui s'asseyaient dans le secteur de la salle qui avait été prévu dans le but qu'on ne dirige pas les appareils dans cette direction. Et là, il y avait des lesbiennes suisses parce qu'elles se disaient « Ouais, la manif, c'est pareil, la TV, elle y était ». Les journaux, ils y étaient. Oui, il y en a qui se sont fait voir à la TV par leurs propres parents, etc., etc. Donc, on pense toujours à ça quand on est suisse. Maintenant, quant aux féministes, alors là, j'ai absolument aucune explication. Je pense que c'est un manque de curiosité qui explique bien pourquoi il y a eu cette division il y a quelques années entre les lesbiennes et les féministes à la fin des années 70. Parce que si vraiment aujourd'hui, elles n'ont pas la curiosité de venir voir ce qui s'y passe. C'est que quelque part, le féminisme s'envole.
Bien, je crois que pour terminer cette partie de l'émission, est-ce que tu peux nous dire un premier bilan très court que vous avez pu faire en tant que groupe, donc le groupe qui a organisé cette conférence, c'est-à-dire Vanny Fraisse, le groupe des lesbiennes politiques de Genève, vous êtes vus. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan? Si ce n'est que vous étiez très fatiguée et un peu dépassé.
Disons, un bilan, c'est difficile. Disons que nous avons quand même été très satisfaites d'avoir pu rassembler toutes ces femmes ici à Genève, d'avoir pu échanger toutes ces expériences de vie et de lutte, et d'avoir pu confronter les discriminations auxquelles on a affaire en tant que lesbiennes dans nos différents pays. Et ça, je crois que c'était extrêmement important qu'on le fasse et qu'on prenne le temps de faire ça. Et je crois que ça a contribué à la construction d'un mouvement lesbien qui soit plus fort, qui soit vraiment international et qui arrive à mettre en cause ces oppressions. Ça, je pense qu'on peut, être contente de ça. Je crois que la manifestation était aussi pas banale. On a pu en voir certaines réactions dans la presse qui montrent bien comment une ville de Calvin peut supporter une chose pareille. Puisqu'il y a un article qui sortait, vous l'avez mentionné tout à l'heure, contre nature, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on aime entendre, n'est-ce pas? Alors, pour nous, c'était une manifestation de visibilité qu'on n'aurait jamais pu faire si on compte uniquement nos forces ici à Genève. Et c'est vrai qu'on les aura dans notre cœur pendant très longtemps, ces femmes. De savoir qu'il y en a 500, 700 derrière nous dans un moment pareil, ça va nous donner beaucoup de force et beaucoup de courage pour faire face à des années pendant lesquelles on va peut-être encore reculer sur le plan des libertés. avant que quelque chose puisse enfin se passer.
Qu'est-ce que tu veux dire par reculer
sur le plan des libertés ? Je pense qu'on est dans une période régressive sur le plan de l'oppression des femmes et pour les lesbiennes aussi. Je pense qu'on est dans une période régressive. Je ne pense pas qu'on va... qu'on arrive à profiter encore d'un certain libéralisme de cette société, parfois, d'avoir un peu d'argent, des Hollandais ou d'autres, c'est une bonne chose. Mais ça n'annule pas le fait qu'en fait, on est en train de reculer et que la droite est à la hausse et que dans ces moments-là, les lesbiennes, elles y passent.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous téléphone, qui veut poser une question. Alors, on va mettre un peu de musique et on revient sur les ondes très vite. Allô?
Ésulie, je te chante, Ésulie, maîtresse femme, femme ventre, femme sang, femme racine. Je te chante, Ésulie, pour qu'un jour toutes les femmes se lèvent la main ouverte pour semer l'espoir. Ésulie, nanana. Senti ma paix monter, Sénégal, Haïti.
Quelqu'un qui nous téléphone pour faire un commentaire sur l'absence des féministes au Congrès. Allô, vous m'écoutez ?
Oui, voilà. J'entends. Oui, je voulais simplement dire que lorsque le tractage avait eu lieu pour le Congrès des lesbiennes, je me souviens en tout cas qu'il n'y avait rien eu qui était fait parmi les femmes et parmi les mouvements féministes ou féminines. Et ce que je voulais dire, c'est que ce que j'avais entendu tout à l'heure, parce que la jeune femme disait qu'il n'y avait pas une seule féministe présente au Congrès, je m'étais dit que c'est quand même normal, parce que c'est un milieu très fermé, et je crois que les féministes n'y étaient pas invitées, c'était exclusivement les lesbiennes. Et je pense que c'est la vapeur qui est renversée, parce que en fait, les féministes, moi j'en suis une, je suis très intéressée par ces problèmes de liberté, de choix. Et je ne suis pas lesbienne moi-même, mais néanmoins le problème m'intéresse. Et comme ça intéresse aussi beaucoup de gens, beaucoup de femmes que je connais autour de moi qui sont féministes, qui ne sont pas forcément lesbiennes, ou qui l'ont eu, été... disons, pas par accident ou bien par aventure, mais c'est simplement que les féministes, elles ne sont pas du tout fermées à ce choix qu'elles ont fait, mais c'est bien le contraire. Il me semble que si on n'est pas lesbienne, on est très mal accepté aussi, on est rejeté. Et je crois qu'on a du mal à aborder ces problèmes-là, surtout dans un congrès. On a du mal à aborder certaines questions s'il ne s'agit pas d'homosexualité. Mmh. Alors que moi, franchement, je dis que l'homosexualité, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes, je défends ces libertés d'expression, je défends aussi ce choix de vie, de mœurs. Mais moi, je crois que les lesbiennes, elles sont assez fermées. Et on n'arrive pas tellement à entamer un dialogue là-dessus.
On peut peut-être essayer ensemble, si vous voulez. Je remarque quelque chose dans votre vocabulaire. Vous parlez essentiellement de choix et de problèmes. Hein, comme si, en fait, le lesbianisme se restreindrait en fait, au libre choix de sa sexualité et que ça pourrait causer des problèmes. Pour nous, c'est pas tout à fait ça ce qui se passe. Pour nous, ce qui se passe en fait, c'est que des féministes, il y en avait beaucoup à cette conférence, mais des féministes lesbiennes, ce qui manquait, c'était des féministes hétérosexuelles. Et je crois que on voit là aussi, d'une certaine façon, qu'il n'y a rien de bien différent entre nous. Si ce n'est que là, c'était une occasion de lesbiennes qui se rencontrent et qui en fait montrent là ce qu'elles espèrent. Qu'elles espèrent quelque chose de plus pour les femmes. Et ça fait déjà quelques années, malheureusement, que on n'a plus vu une grande apparition des féministes ici. Et dans ce sens-là, ce n'est pas une tellement grande surprise qu'elles ne soient pas venues. Je crois que notre fermeture là-dedans, toute femme pouvait rentrer dans cette conférence. Toute personne du sexe féminin pouvait rentrer, quelle que soit son appartenance c'était politique. Mais pourquoi c'est nous qui devons spécifier, par exemple, quand un événement est
J'ai cru comprendre, j'ai compris simplement que si on n'était pas lesbienne, il fallait simplement s'abstenir pour éviter, parce qu'on pourrait très bien se faire accuser de curieuse, n'est-ce pas, de venir en voyeuse. Et dans ce sens-là, je m'étais abstenue. Et je m'étais dit, c'est dommage, parce que j'aurais
aimé être présente. Mais vous auriez pu vivre une expérience intéressante.
En tant qu'hétérosexuelle, j'aurais aimé être présente. Pour je dis pas que c'est pas sans problème. Si je vois par exemple des femmes lesbiennes qui d'emblée m'attaquent comme un peu comme à la manière des hommes, c'est parce que je crois qu'on ne peut pas nier non plus que chez les femmes lesbiennes, il y a bien un côté très agressif, très fort, un côté qui veut absolument posséder l'autre. Ça, je ne nierai pas. Et ça, je l'ai vu maintes fois. Alors, je crois que c'est ce côté-là qui est désagréable, mais ce n'est pas ça qui me fait peur. Je trouve que ça bloque le dialogue, ça ne permet pas d'ouverture. Et les hétérosexuels, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Moi, je dis qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de répression contre les homosexuels, hommes et femmes. Il y a aussi des problèmes de mœurs, c'est-à-dire que depuis des siècles, des dizaines de siècles, on vit et on fait une morale là-dessus, et on fait toutes nos institutions respirent de cette hétérosexualité. Il ne faut pas le nier, c'est quand même un conditionnement que nous avons subi, hein, aussi bien sur plan des institutions que sur plan de la famille. Je pense qu'on ne peut pas échapper à ce conditionnement. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas tellement de dire que ça c'est bon ou ça c'est mauvais. Je ne conçois pas un mal et un bon quelque part. Le choix, si j'en avais parlé tout à l'heure, c'est simplement cette liberté légitime et intime de choisir le genre de vie qu'on veut mener, qu'il s'agisse d'homosexualité, c'est pour ça que je parlais de mœurs, pas autrement, ou qu'on choisisse une autre forme de vie, tant qu'on n'empiète pas sur la liberté, tant qu'on ne bouleverse pas, si vous voulez, la liberté individuelle de chacun, je pense qu'à ce moment-là, et en plus de ça, on ne perturbe pas non plus la collectivité. Oui. Dans ce cas-là, je trouve que c'est l'expression de la liberté, l'expression de choix. C'est dans ce sens-là que je veux dire.
Alors, je vous remercie beaucoup de votre téléphone et de votre commentaire. Ce que je crois pouvoir dire, c'est que ce congrès était effectivement un congrès de lesbiennes, où les féministes pouvaient être invitées, mais effectivement, il n'y avait pas de place pour le problème que les féministes hétéros pouvaient poser. Ce n'était pas le lieu, parce que c'était un lieu que les lesbiennes s'étaient donné, et qu'effectivement, les féministes hétérosexuels qui pouvaient venir, ils venaient pour y amener leur solidarité au mouvement lesbien.
Et auraient pu une fois se sentir minorité dans une majorité, voilà. Et voir ce que ça signifie. Et
je vous remercie beaucoup de votre téléphone.
Bonsoir.
Tout
pays, compère général Jean-Baptiste, où t'as loué Kaila, mesdames, y'ont levé, pour y être, y'en a meilleur. Moi, c'est négresse, tout côté.